J'aimerais ouvrir avec vous le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2, verset 2. C'est le verset 2. Moi, j'ai donc dans mon verset 2, parce que suivant les Bibles, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est la même chose, mais avec un verset d'écart. Alors, moi, Jonas 2 à 11, pardon. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Voilà. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Car mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Nous savons que Jonas était chargé par Dieu d'une mission dont il devait s'acquitter, bien sûr. Et cette mission était particulière. C'était d'avertir la ville de Ninive, tout simplement qu'une destruction les attendait, qu'un jugement de Dieu allait tout simplement descendre sur eux. Amen. Cette ville était la capitale de l'Empire assyrien. Et c'est là que vécurent des rois célèbres, parmi eux, Sennacherib. Il a vécu de 704 à, il a régné de 704 à 681, tout simplement, avant Jésus-Christ. Vous trouverez son histoire dans le deuxième livre des rois, chapitre 18, au verset 13. Également, il y a Assurbanipal. Lui, il a vécu de 668 à 631, avant Jésus-Christ, bien sûr. Alors, cette ville, elle vivait dans un grand désordre. Vous en connaissez des villes qui sont dans un grand désordre. Des villes, des pays également, on le sait, bien sûr. Elle vivait dans le péché. De plus, elle était très cruelle. Et l'avertissement du prophète Jonas était que la ville de Ninive devait subir justement un châtiment. À cause, justement, eh bien, de sa cruauté, de sa méchanceté, ses habitants vivaient comme cela et chacun était encore plus méchant que l'autre. Alors cet avertissement, encore 40 jours, et Ninive sera détruite, est à prendre, je dirais, pour nous aujourd'hui au XXIe siècle, avec un grand sérieux. Nous savons qu'une destruction avait été prédite sur une ville dont le nom symbolise le monde dans lequel nous vivons, Babylone, Babylone la Grande. Et nous savons ce qui s'est passé réellement pour elle. Cette ville de Mésopotamie est située sur l'Euphrate, actuellement l'Irak, à environ 100 km de Bagdad, près d'une ville moderne qu'on appelle Hila. Elle est citée pour la première fois après le jugement du déluge. Vous vous rendez compte? Vous savez combien Dieu use de patience? Il aurait pu la détruire instantanément et la faire disparaître, mais il a usé de patience. Et on va le voir, il y a des raisons à cela. Bien sûr, sa destruction nous est décrite dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, je reprends ses paroles. Apocalypse chapitre 14, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Le prophète Jérémie, lui-même, il fait allusion quand il dit ceci: « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » Vous voyez, c'est des choses qui sont arrêtées. Et on pourrait se dire, mais depuis le temps, non, d'use de patience, la Bible ne le dit, ne voulant qu'aucun ne périsse. Mais un jour, le jugement tombe, bien sûr. Alors j'aimerais revenir un petit peu à Jonas. Jonas, personnage particulier, on va le voir ensemble. Il est là dans cette prière qu'il adresse à Dieu, c'est parce qu'il est dans la tempête. Il vous arrive d'être dans des tempêtes, vous aussi? Eh oui. Alors Jonas, fils d'Amittai, originaire de Gath-Hépher en Zabulon, fut prophète dans le royaume du Nord sous le règne de Jéroboam II. C'était en 793 à 753 avant Jésus-Christ. Alors Jonas est l'auteur d'une prophétie selon laquelle Jéroboam II, roi d'Israël, rétablirait les frontières du royaume d'Israël. C'est ce qui va se produire, bien sûr, lorsque il sera vainqueur de Hazaël et de Ben-Hadad. Son nom, dans le nom de Jonas, contient une racine formidable. Est-ce que quelqu'un la connaît? Colombe, ça vous dit quelque chose? Et quand on fait une fête, on lâche des colombes, hein, symbole de paix, etc. On se dit en tout cas une chose, c'est que la colombe, l'oiseau, bien sûr, est le symbole de la fidélité. Il revient toujours, plutôt la colombe revient toujours au colombarium. Elle revient toujours. Également, c'est un oiseau qui n'a pas de fiel. Vous vous rendez compte? Le fiel, c'est le symbole de l'amertume. Il n'y a pas de fiel chez la colombe. Puissions-nous être des colombes. Amen. Chacun pour notre part. Fidélité, pas de fiel, pas de méchanceté, pas d'amertume. Alléluia. Formidable. Alors Dieu va lui adresser cette parole. En ces termes, il va lui parler, Jonas chapitre 1, verset 2, « Lève-toi, tu vas à Ninive, la grande ville, et tu cries contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas, au lieu de partir en direction de l'est, il s'embarque vers l'ouest. Et sur un navire, il va en direction de Tarsis. Alors certains pensent que Tarsis est situé en Turquie autrefois, eh bien la Cilicie. D'autres pensent que c'est plutôt situé au sud de l'Espagne, aujourd'hui la ville de Tartessos, en Andalousie. Voilà, alors je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que pendant le trajet, et c'est comme ça quand finalement on désobéit à Dieu, des fois même en obéissant, il y a certaines tempêtes de la vie, il y a des choses imprévues. Mais lui, là, quelque part, il l'a cherché, comme on dit. Hein. Voilà, parce qu'il y a une tempête d'une extrême violence qui se lève. Le bateau menace de faire naufrage. Et les marins invoquent chacun leur divinité. Ils vont jeter à la mer leur cargaison. Ils ont peur. Ils allègent le navire. Ils disent, on va à force couler, bien sûr. Puis comme rien n'y faisait, et que la situation devenait de plus en plus critique, ils vont tirer au sort afin de savoir qui parmi eux porte malheur. Vous voyez, les hommes, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils se rendent compte quand des choses ne vont pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le coup. Et c'est ce qui se passe là. Alors le sort désigne tout simplement Jonas. Vous savez où il était, Jonas? Il était au fond de la cale, il était en train de dormir tranquille, lui. Je ne sais pas comment on peut dormir quand on vit dans le désordre. Je ne sais pas comment on peut dormir quand justement, on n'est pas dans l'obéissance. Quand on n'est pas dans les plans de Dieu, ce n'est pas possible. Mais lui, il dort. Il s'est endormi profondément au fond du bateau. Alors on va le réveiller, on va lui poser des questions. Et il va répondre. Écoutez bien les réponses, elles sont quand même particulières. Il dit, je suis hébreu. Et moi, je l'ai mis en gras. Et je crains l'Éternel. D'accord? Je crains l'Éternel qui a créé la mer et la terre. Il leur dit aussi qu'il fuit justement la présence de son Dieu, celui qu'il craint. D'accord? Et il ajoute, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la tempête se calmera, car je sais que c'est moi qui attire cette épreuve. Le gars, il est vraiment conscient. On ne peut pas dire qu'il a, par mégarde, il s'est trompé, il a pris le mauvais chemin. Non, il a fait un choix. Un choix d'aller à l'opposé de la volonté de Dieu. Et il savait qu'il fuyait loin de la face de Dieu, bien sûr. Alors, ces hommes, quand ils entendent cela, ça ne les rassure pas. Hein. Ça ne les rassure pas du tout. Donc, ils sont saisis d'une grande frayeur. Ils vont lui dire, mais comme quoi ? Quelquefois, nous, on déraisonne complètement quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Il lui dit, mais pourquoi fais-tu cela ? Quelque part, c'est pour le porter à réfléchir. Mais si tu fais la volonté de Dieu, au lieu de t'enfuir, de faire l'opposé de ce que Dieu réclame de toi, les choses iront bien pour toi. Mais non, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Il est dans son idée, on va voir que ça va loin. Hein. À la fin, on le verra ensemble. Hein. Alors, après avoir hésité, voyant que la mer ne se calmait pas, eh bien, ces hommes vont invoquer ainsi le Dieu de Jonas. Hein, Jonas, chapitre 1, verset 14. Ils dirent, ô Éternel, ils ne le connaissent pas. Mais il y a quelque chose qui se passe en eux. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Vous croyez que Dieu fait ce qu'il veut ? Il se rit même de ses ennemis, de ses adversaires. Amen. Il y a une chose que Dieu ne fait pas. C'est de se tromper. Dieu ne se trompe pas. Il avait appelé Jonas et il savait que c'était Jonas qui devait être son messager. Et je peux vous dire aussi que Dieu ne se trompe pas. Il ne s'est jamais trompé quand il a choisi quelqu'un. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que c'était lui ou elle. Amen. Quand Dieu vous charge d'une responsabilité, faites-le avec sérieux. Obéissez à la volonté de Dieu. Faites-le pleinement. Faites-le avec crainte, mais aussi avec joie. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Seigneur des Seigneurs et le Roi de toute la terre. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont jeter Jonas dans la mer. Et il se passe exactement ce que Jonas a dit. Jetez-moi à la mer, vous verrez, la tempête va se calmer. Et là, l'équipage était saisi également d'encore une grande crainte envers l'Éternel. Ils vont même lui offrir un sacrifice, ils vont s'engager avec lui par des vœux. Si vous faites des vœux, si vous vous engagez par une parole envers Dieu, mais tenez-la. Il faut être sérieux. Quand on est enfant de Dieu, il faut aller jusqu'au bout, on l'a entendu dans un don spirituel. Il n'attend pas que des paroles, mais il attend aussi des actes. Amen. Et les actes, ils se prennent là déjà dans le cœur. Amen. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Jonas 2, verset 1, nous dit que Dieu envoya un grand poisson qui avala Jonas. Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Je n'ai jamais été dans un ventre d'un poisson. Mais ça doit faire un drôle d'effet. Enfin, on a un Seigneur qui est grand. 3 jours, 3 nuits, il aurait dû mourir. Il est toujours en vie. Ça me fait penser 3 jours et 3 nuits. Qui c'est qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau ? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Il est ressuscité à l'aube du 3e jour. Il est vivant aujourd'hui. Alléluia. En tout cas, ce que je constate, c'est que dans cette situation dramatique, que va jaillir du cœur de Jonas cette magnifique prière de reconnaissance, c'est celle que nous avons lue au début, en introduction. Il dit, tu m'as fait remonter vivant du fond de l'abîme, ma prière est montée jusqu'à toi, je t'offrirai ou j'accomplirai plutôt les promesses que je t'ai faites. Pourquoi faut-il qu'on soit enseveli là, dans un état de mort pitoyable, 3 jours et 3 nuits pour dire, Seigneur, je veux t'obéir. Pourquoi attendre d'être dans une épreuve terrible pour dire, Seigneur, je veux faire enfin ta volonté. Non, non. Faisons-le de suite. Amen. En tout cas, le Seigneur est bon. Il va parler au poisson, qui va rejeter Jonas sur la terre ferme. Et une seconde fois, Dieu va ordonner à Jonas ceci. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas, cette fois-ci, se met en route. Alléluia! Croyez qu'il aurait pu s'épargner cette tempête ? ce naufrage, hein, cet habitat particulier, pendant 3 jours et 3 nuits. Eh oui. Alors il se lève, il entre dans la ville et il annonce, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les habitants prirent cet avertissement au sérieux, c'est ce que nous dit le texte au verset 5. Et ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, petits et grands, ils se revêtirent de sacs et s'assirent avec humilité dans la cendre. Une grande humilité, hein ? Je dirais une grande humiliation plutôt, hein ? Eh oui, même le roi de Ninive va s'humilier, comme tout son peuple. Il va dire dans Jonas 3, versets 8 et 9, « Comme et bête se couvrent de toiles de sac et crient à Dieu de toute leur force, qu'ils renoncent à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables, et qui sait si Dieu ne se ravisera pas et s'il n'abandonnera pas son ardente colère de sorte que nous ne périssions pas. » Ils sont bien conscients, hein ? Amen. Finalement, dans l'affaire, il n'y avait qu'un qui n'était pas conscient ou qui ne voulait pas être conscient pour ne pas justement obéir à Dieu. C'est Jonas. Alors, lorsque Dieu va voir comment les habitants de Ninive vont réagir et comment ils vont abandonner leur mauvaise conduite, lui va renoncer à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Et il ne le fit pas. Qu'est-ce que vous dites là ? Alléluia. Non ? Formidable. Vous croyez que c'est ce que pense et ce que vit Jonas à ce moment-là ? Jonas, il se met dans une grande colère. Dieu ne les fait pas périr. Pourquoi ? Parce qu'ils se repentent. Et Jonas, il est dans une colère terrible. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'étonnante attitude du prophète, hein. Jonas d'abord est très déçu, il se met en colère. Vous lirez un petit peu les 4 chapitres de ce livre qui surprend, il est formidable. Tout d'abord, nous constatons le chauvinisme de celui qui s'appelle Colombe, je le rappelle, avec tous les symboles que ça représente, et qui dit également respecter le Créateur des cieux et de la terre, eh oui, qui dit vouloir honorer Dieu en faisant sa volonté. Vous vous rendez compte ? Eh oui. Alors malgré sa dureté, le message que Dieu lui a confié contient une heureuse nouvelle. Pourquoi ? On le constate, les faits sont là. Il pousse à la repentance. Un peuple qui était dans la méchanceté, qui vivait dans le désordre, qui n'avait pas de pitié, nous voyons que justement, il se repente. Amen. Donc c'était le bon message. Également le bon porte-parole. Dieu ne s'était pas trompé. Amen. Puisqu'il y a le résultat, il est là. Et qu'est-ce que nous constatons ? Eh bien que Jonas, lui, ne voulait pas que les habitants de Ninive puissent se repentir. Il le dit clairement, je prends Jonas chapitre 4, verset 1er. Cela déplut fortement à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit : Ah, Éternel ! N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ah là là ! Moi, ça me fait du bien d'entendre ça et de le lire, hein ? Et puis de vous en parler. Combien de fois nous sommes à côté de la plaque ? Vous ne trompez jamais, vous. Eh oui. Mais alors, vous voyez un petit peu la manière dont nous nous comporterions nous-mêmes à l'égard de celui qui se trompe. Mais Dieu, lui, nous dit que... D'ailleurs, Jonas, il le sait bien, il le sait, il ne se trompe pas. Hein, et il ne fait pas naufrage, là, au niveau de la volonté de Dieu et des sentiments qui animent Dieu. Hein. Il dit, tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Hein, du mal que tu veux faire, bien sûr, hein, que tu as proclamé. Eh oui. Il ira jusqu'à dire, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Vous avez vu la réponse de Dieu ? Elle est au verset 4 du chapitre 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Après tout, si Dieu voulait les amener à la repentance, c'était une bonne chose, non ? Quand une population, un peuple, des hommes vivent dans le mal, dans la corruption, dans le péché, de savoir que Dieu veut les ramener, lui, sur le chemin de la vie, à l'honnêteté, à la bonté. C'est pas extraordinaire ? Quand vous entendez des personnes dire « Seigneur, fais tomber !» Ils l'ont dit les disciples, hein, parce qu'ils n'ont pas été reçus. « Fais tomber le feu du ciel et consume-les !» Mais non, le Seigneur pouvait faire pareil avec nous. « Ah oui, moi j'appartiens au Seigneur. » Mais avant d'appartenir au Seigneur, tu as vu une auréole au-dessus de la tête ? Eh non ! Donc, si nous sommes animés de tels sentiments, il faut changer. Je suis un pécheur, j'ai été racheté par grâce. Amen. Maintenant, j'appartiens au royaume de Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, pardon. Pourquoi alléluia ? Alléluia ! Alors, si à la lecture de ce livre, nous désirons obéir à Dieu, notre Sauveur, mais il nous faut entendre ce que son Esprit nous dit aujourd'hui. Et il nous en dit des choses. Puis aussi, prenons garde à n'être ni parmi les tièdes, ni parmi les partagés de ce siècle. Vous savez, cette parole adressée à l'église de l'Odyssée nous concerne. Hein. Aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, et c'est dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15, il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid et bouillant ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Vous voyez ? Comme quoi on peut s'endormir, te bercer, soi-même. Hein ? Je suis un bel homme. Hein ? Je suis formidable. Vous croyez que je suis formidable ? Non. Mais non. Ce qui est formidable, c'est le Seigneur. Alléluia. Souvent, je dis, mais qu'est-ce qui désaltère, le robinet ou l'eau ? T'es l'eau ! Mais oui ! C'est la parole de vie. Amen. C'est elle qui désaltère. Moi, je ne suis que le robinet, le porte-parole. Amen. C'est ce que nous sommes en tant que serviteurs de Dieu. Alors Jonas, lui, vous savez comment il était ? Il était glacial. Ah oui ! Ah, il était froid, mais alors glacial, parce qu'il n'avait aucun sentiment à l'égard des Ninivites. Aucun sentiment. S'il avait été tiède, partagé, il serait simplement resté à Jérusalem pour se faire voir comme un fidèle. Il aurait été assidu aux cérémonies du temple. Ouais, on aurait dit, ah, formidable ce Jonas, quel homme ! Vous comprenez ? Mais on peut être vide intérieurement. Eh oui, eh oui. Alors la Bible nous montre de nombreux textes que tous les disciples de Jésus ont reçus. Ils ont reçu un ordre impératif. Quel est l'ordre impératif que nous avons reçu ? Soyez mes disciples, soyez mes témoins. Amen. Nous devons être les témoins du Seigneur. Nous devons servir de témoignage. Nous devons être cette lettre ouverte, décachetée et lue aux yeux de tous. Amen. Simplement, en vivant d'une manière qui honore le Seigneur, alléluia, en faisant sa volonté, en obéissant tout simplement à ce que Dieu nous demande, nous serons d'abord les plus heureux des hommes. Nous verrons du fruit. Nous goûterons à des choses magnifiques, merveilleuses. Alléluia. Alors, nous ne voulons pas rester sur cette parole, vous savez, adressée à l'église de la Odyssée. Je vais vous citer celle que Dieu va adresser tout simplement à une autre église, celle de Philadelphie. Les paroles qui, je l'espère de tout cœur, sont là pour vous encourager à aller de l'avant. Vous voyez, ce n'est pas simplement le marteau qui tombe, c'est au contraire les paroles qui sont données pour que, eh bien, il y ait réflexion. Et action. Amen. Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8 et dit Sion, c'est dans la version française courante. Hein. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est le maître, hein? D'accord? Il dit, je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant, tu as été fidèle à ma parole, tu ne m'as pas renié. Eh bien, et j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Au verset 10, puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Il dit, voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Alléluia. Dieu sait avertir son peuple. Hein. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait des missionnaires en Algérie, il y avait des chrétiens en Algérie. Il y a eu un réveil formidable. Et à un moment donné, Dieu a dit à son peuple de quitter le pays. Certains ont tenu compte de cela. Ils ont vendu leurs biens. Ils sont rentrés donc sur le territoire français. D'autres n'ont pas voulu écouter. Ils étaient tellement bien. Et on sait ce qui s'est passé. Là, il y a eu des grosses pertes. Des vies humaines, des biens également. Alors écoutons. Sachons être sensibles à la voix de l'Esprit. Laissons Dieu nous parler et ensuite obéissons. Faisons la volonté de Dieu. Parce que les Écritures les enseignent certaines choses. Déjà, elles enseignent que Jésus devait souffrir, qu'il devait mourir et ensuite revenir à la vie le troisième jour. Elles enseignent aussi la difficulté, l'adversité, la souffrance. Eh bien, toutes ces choses-là sont arrivées à Jésus, mais elles doivent nous arriver aussi. Est-ce que ça doit nous freiner? Est-ce que ça doit nous arrêter? Non. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Notre vocation, et elle est là, c'est d'annoncer aux habitants de cette ville, de cette région tout entière, qu'ils doivent changer de vie, c'est-à-dire qu'ils doivent se repentir, comme il a été dit à la vie de Ninive. Et là, ils obtiendront le pardon de leurs péchés, une vie nouvelle. Je l'ai fait. Je n'étais peut-être pas le pire d'entre vous, mais j'étais pas mal. J'ai respiré le meurtre, moi. Et si le Seigneur ne m'avait pas arrêté, je serais devenu un meurtrier, j'aurais fini en prison. Parce qu'on n'échappe pas à la justice. On croit, hein, mais le crime parfait, s'il existe, il est dur à trouver. Eh oui. Alors notre vocation, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et bien sûr, nous sommes des témoins. Et comme le dit Paul, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ afin de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Vous avez une bonne nouvelle? Oui ou non? Annoncez-la. Une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Et oui, cette semaine, un jeune est venu frapper à la fenêtre. On a parlé un moment ensemble. Alors, il m'a parlé de certaines choses. Je lui ai dit, écoute, le plus important, ce n'est pas ça. Parce qu'il est entouré d'évangéliques. Alors, mais lui, il n'est pas encore engagé. Il veut faire sa vie d'abord. Je lui ai dit, ce n'est pas ça. Tu vas te planter, tu vas te tromper, tu vas te faire du mal. Le plus important, c'est d'avoir Jésus. Me parler de certains témoignages. Je lui ai dit, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu aies Jésus dans ton cœur. Que tu aies l'assurance et la certitude du salut. Parce que là, tu sais où tu vas marcher. Tu sais ce que tu dois croire, j'allais dire gober. Hein. Tu sais ce que tu dois avaler comme couleuvre ou pas. Parce que le monde en fait avaler. Hein. Ben ouais. Tourne-toi vers Jésus. tourner les regards vers le Seigneur. Alléluia. Un certain soir, dans un entretien particulier que Jésus a avec Nicodème, un chef du peuple juif, hein, un grand enseignant, il avait une belle carte de visite, hein. Il vient voir Jésus en cachette. C'est drôle, hein, en cachette. Ben, ça ne gêne pas le Seigneur, ça. Non, non. Il va lui dire, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que tu aies Jésus. Amen. Plus que des slogans, il faut que tu aies Jésus, bien vivant en toi. Il faut que Jésus vive sa vie en toi pour que tu sois le témoin qu'il attend, qu'il recherche. Pour que tes paroles aient du poids. Alléluia. Il veut te revêtir de son esprit. Amen. Des femmes, des hommes habitant dans cette ville, dans cette région, peuvent être sauvés, moi je le crois. Si nous sommes la lumière, nous devons servir quelque part d'indication. Amen. La lumière, on ne doit pas la mettre sous le boisseau ou mettre sous la table. Non, non, c'est sur la table pour qu'elle éclaire la pièce. Là où je suis une lumière. Et on doit voir qu'il y a une lumière qui peut les atteindre. Amen. Il faut absolument. Hein? Souvenez-vous, en prenant référence sur les habitants de Ninive, c'était des grands méchants, hein, des cruels, des agressifs, dans tous les sens du terme. Mais Dieu a su toucher, transformer leur vie. Ne dites pas « lui, jamais ». N'entendez pas ces choses-là, quelquefois ? « Allez, elle, même pas la peine que je lui parle. » Mais tu ne sais pas ce qu'elle vit. Parce que des fois, les réactions d'une personne qui sont violentes et excessives, c'est en raison d'un grand trouble intérieur, d'une grande souffrance. Et justement, cette personne a besoin d'entendre que quelqu'un l'aime, que le Seigneur l'aime. Et vous savez, quand on dit à des gens, nous on le voit régulièrement, quand on dit à des gens, mais on prie pour vous. Il y a une petite Léa, Salène Giraud, elle a des gros problèmes de santé. On a croisé sa maman nous en a parlé. J'ai dit que j'étais pasteur. On a dit qu'on allait prier pour elle. Et puis quand on marche dans Salène, on fait des marches, hein, nous. Eh oui, on aime bien marcher. Faire du vélo aussi, on aime bien marcher. Moi, j'aime marcher la nuit, le soir. Quand il fait frais, on est bien. Il n'y a pas de bruit, mais alors pas un bruit. Et là, j'ai encore croisé Léa. Elle était à sa voiture en train d'éteindre les feux. Je lui dis, alors Léa, tu as passé ton examen? Elle me dit oui. Pour le moment, on ne trouve rien. Je lui dis, tu sais que je prie pour toi? Elle me dit oui. Vous savez, il y a des larmes là. C'est important, hein? Amen. Que les gens sachent qu'on prie pour eux. Elle me dit, je sais, merci, merci. Ça fait du bien. Savoir que quelqu'un pense à nous dans la tempête, au sein de ces presque naufrages avant qu'ils n'arrivent. Alléluia. Puis souvenons-nous une chose, c'est qu'à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible également à celui qui croit. Ça, c'est nous. À Dieu, rien n'est impossible. OK, on le sait. Mais également, il nous faut croire que tout est possible si je crois, si je suis dans le plan de Dieu. Alors, avec zèle, amour, force, sagesse, soyons unis, complémentaires, parce que nous avons un merveilleux message à annoncer à tous. Alléluia. C'est l'appel, la vocation de l'Église. Et il nous faut laisser les futilités de côté. Hein. C'est comme on l'a entendu tout à l'heure, le moment de se lever, d'aller avec la force que Dieu nous donne et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Passons du temps, hein, ce temps des vacances, mais passons du temps à réclamer au Seigneur leur âme. Soyons également de plus en plus nombreux à venir combattre dans la prière. Alléluia. Demandons au Seigneur d'être ses témoins efficaces. Et quelque part, soyons un signe pour notre temps. Jonas en a été un, malgré lui, d'une manière particulière. Oui, oui, oui. Parce que c'est ainsi que nous serons prêts pour le retour glorieux du Seigneur. Il va venir chercher tout l'Israël de Dieu. Alléluia. Nous sommes-nous des rachetés. Amen. Notre nom a été inscrit dans le livre de vie qui est dans les cieux. Voyez, un jour, il va ouvrir ses rouleaux. Il va lire. Bernard Villa, entre. Mais pas que moi, oh. Vous auriez dû redire votre prénom ou votre nom, hein. Ben oui, Marc, tu vas rentrer. Et il faut tenir debout, hein. Il faut tenir le choc. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Qui que nous soyons, continuons à élever les regards vers le Seigneur. Beaucoup de choses qui ne vont pas ici-bas. Ok. Est-ce que je peux tout changer, moi? Non, je ne changerai pas le monde. Mais le Seigneur va le changer. Moi, je tourne les regards vers lui. Je l'invoque, je le prie. Je lui demande d'agir, il le fait. Amen. Demandez des âmes au Seigneur. Alléluia. Peut-être le pénible d'à côté. Ce voisin là. Oh, il est impossible à vivre ce gars. Mais écoute, le Seigneur peut le changer. Nous, ça change à côté de chez nous. J'en ai déjà parlé, hein. Mon épouse, elle fait. N'en dis pas trop. Mais oui. Mais oui, le Seigneur répond à la prière. Alléluia. On a aussi des actions à faire. On les fait. Et ça marque le coup. Amen. Des fois, il faut faire le premier pas. Eh oui, c'est pourtant lui qui est en tort, mais ça fait, je fais le premier pas. Et ça change les mentalités. Ça change l'atmosphère, c'est plus détendu. Alléluia. Que Dieu nous aide à vivre sa parole. Amen. Nous avons besoin de lui. On se lève ensemble, vous voulez bien, puis on va prier. On va ensuite se séparer. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi, une bonne semaine. Je rappelle les réunions, hein, tous les mardis à... Ben venez, venez par là. Les musiciens me font signe, hop, ils vont venir par là s'installer derrière moi. Je rappelle les réunions tous les mardis soirs à 18h30, la réunion de prière, d'études bibliques ou d'édification. Et tous les vendredis soirs également à 18h30, nous avons eh bien, notre réunion d'évangélisation. Amener des âmes nouvelles. Amen. C'est le temps, ils ont le temps, ils sont en vacances. C'est le mois d'août. Alléluia. Les cigales chantent, le soleil, il brille. Faisons-le briller dans les cœurs. Amen. Donne-leur un autre chant, hein, celui de l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, je prie. Et puis après, on les laisse. Ils vont tout simplement nous chanter un cœur. Et on va les accompagner. Merci pour ta parole. Combien elle est bonne. Combien nous avons besoin de l'entendre. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais ce sont des choses que tu nous as déjà dites. Et tu tiens à nous les rappeler pour notre bonheur, mais également pour que nous puissions être participants de l'avancement de ton règne ici-bas. Merci de fortifier chacun et chacune, que chacun puisse recevoir quelque chose ce matin. Merci de nous visiter les uns et les autres, nous garder également dans ce temps de vacances, de garder les couples et les familles, Seigneur, parce que l'adversaire, lui, cherche et rôde tout simplement pour détruire ce qui est beau. Alors Seigneur, sois béni pour l'action de ton esprit. Amen. Amen.
Comme a dit Bernard tout à l'heure, l'homme est pécheur, mais s'il se repent, il s'y rentre dans le plan de Dieu.